Chapitre 45. Épuisée, morte de froid et énervée, Nietzsche voulait absolument obtenir une chambre. En entraînant Richard jusqu'au cœur même de l'ordre impérial, elle désirait lui faire découvrir qu'elle combattait pour une juste cause. Ne doutant pas de la profonde intégrité morale de son prisonnier, elle tenait à voir sa réaction quand il comprendrait que les intentions de ses ennemis étaient hautement louables. Elle voulait aussi qu'il sache combien la vie était dure pour les gens ordinaires. Comment se comporterait-il confronté à ces difficultés? Une fois jeté dans l'ignoble grand bain du monde, surnagerait-il ou coulerait-il à pic? Elle avait pensé qu'il se montrerait nerveux et frustré, jusqu'à présent il restait d'une étonnante impassibilité. En apprenant ce qu'il allait devoir faire pour obtenir un emploi, il aurait dû exploser de rage. Normalement, face au discours pompeux de Maître Gudjons, le Richard qu'elle croyait connaître aurait laissé parler ses muscles. Tout au contraire, il avait chaleureusement remercié le fonctionnaire abruti. À croire que les valeurs qu'il défendait naguère avec une parfaite naïveté et un égoïsme consommé n'importaient plus pour lui. Au palais des prophètes, quand elle était sa formatrice, il avait déjà le génie de la prendre à contre-pied dans presque toutes les situations. Il en allait toujours ainsi, mais d'une manière beaucoup plus subtile. Ce qui était à l'époque une tendance juvénile à la rébellion anarchique avait évolué. Désormais, Richard étudiait ses victimes avec l'œil exercé d'un prédateur aguerri. Et sans le collier qui lui enserrait le cœur, c'était Nietzsche qui l'aurait déchiqueté avec ses serres. Peu avant de le capturer, la sœur de l'obscurité avait aperçu une statuette sur le rebord d'une fenêtre de la cabane. Une femme indomptable, prête à affronter jusqu'à la mort toute adversité. Une œuvre de Richard. Nietzsche en aurait mis sa tête à couper. L'expression même de sa vision du monde qu'elle avait appris à reconnaître. Cette œuvre d'art prouvait que le don de Richard avait une face cachée. Pourtant, la statue ne semblait investie d'aucune magie. Certaine que son prisonnier avait donné le jour à l'étrange femme indomptable, Nietzsche s'était attendu à ce qu'il accepte le travail de sculpteur qu'on lui avait proposé à Tanimura. Mais il avait décliné l'offre, puis broyé du noir pendant plusieurs jours. Dans chaque nouvelle ville, il avait à peine regardé les statues. Artiste lui-même, elle pensait qu'il serait fasciné par l'art impérial. Mais il s'était montré révulsé par ses œuvres, encore une réaction que la sœur de l'obscurité ne comprenait pas. Aucune n'était si finement ciselée que la sienne, il fallait l'admettre, mais il aurait au moins dû s'y intéresser un peu. Et pourquoi était-il de si mauvaise humeur dès qu'il ne pouvait pas éviter d'en voir une? Un jour, Nietzsche avait fait un long détour simplement pour montrer à Richard une grande place célèbre pour une sculpture géante hors du commun. Devant un tel chef-d'œuvre, avait-elle pensé, il allait sûrement s'extasier. Bien au contraire, il s'était rembruni. Surprise, Nietzsche avait voulu savoir ce qui lui déplaisait dans cette splendide réalisation baptisée « Vision tourmentée ».« C'est une image de la mort », avait-il dit, dégoûté, avant de se détourner d'une des merveilles artistiques de l'Ancien Monde. Cette œuvre géniale représentait un groupe d'hommes dont certains se crevaient les yeux après avoir vu la lumière parfaite du Créateur. À la base de la statue, d'autres personnages qui ne s'étaient pas mutilés eux-mêmes étaient taillés en pièces par des monstres venus du royaume des morts. Terrorisés, les sbires du gardien reculaient devant d'autres aveugles qui se tordaient désespérément les mains au simple souvenir de l'inhumaine beauté qu'ils avaient contemplée avant de se priver à jamais de la vue. « Non, » avait répondu Nietzsche. S'efforçant de ne pas éclater de rire pour ne pas humilier Richard en lui mettant le nez dans son inculture, elle avait tenté de lui révéler le sens profond de la sculpture. C'est une représentation de la nature humaine fondamentalement perverse. Ces personnages viennent de contempler la lumière du Créateur et de découvrir à sa lueur que la dépravation de l'humanité est au-delà de toute rédemption. S'ils se sont crevés les yeux, Richard, c'est parce que se voir eux-mêmes et leurs semblables leur est devenu impossible après une telle expérience. Ce sont des héros, comprends-le, parce qu'ils nous montrent le seul chemin possible. Se résigner à notre indignité. Une leçon terrible pour certains esprits forts qui osent se comparer au Créateur. La vérité, c'est que nous sommes de misérables fourmis dans l'univers auquel il a donné le jour. Oui, face à son œuvre, aucun individu ne compte, et seule la société, prise comme un tout, peut avoir une quelconque valeur. Les autres personnages, ceux qui ont refusé de se crever les yeux, subissent leur châtiment entre les griffes du gardien. Tu comprends à présent? Cette œuvre nous fait honneur à tous, parce qu'elle montre que le seul chemin vers le salut passe par l'oubli de soi-même et le dévouement envers les plus faibles. C'est la seule gloire qui nous soit accessible, Richard. Vision tourmentée ne symbolise pas la mort, mais nous propose une image réaliste de la vie. Nietzsche avait toujours entendu dire que cette œuvre soutenait l'espérance des fidèles parce qu'elle confirmait que leurs convictions étaient les bonnes. Après son discours, Richard l'avait foudroyé du regard. Même quand sa mère lui faisait subir ce supplice, jadis, elle ne s'était jamais sentie si petite. La sœur de l'obscurité avait été terrifiée par ce qu'elle voyait briller dans les yeux de Richard. L'exact contraire de la lumière mystérieuse qui motivait sa quête depuis le début. Sans dire un mot, il lui avait donné envie de s'enfuir sous terre et de ne plus jamais sortir de son trou. Face à lui ce jour-là, Nietzsche s'était tout simplement senti indigne de vivre. Comment était-ce possible? En un sens, elle avait eu l'impression d'être aussi aveugle que les héros dont elle venait de parler. Et avant de regarder de nouveau son prisonnier dans les yeux, il lui avait fallu près d'une semaine. Très souvent, Richard se montrait docile quand elle s'attendait à le voir se rebeller. Inversement, il réagissait avec passion face à des événements qui auraient dû le laisser de marbre. Était-il vraiment un être très spécial, comme elle le pensait, ou simplement un lunatique de plus? Parfois, elle se le demandait sérieusement. Un soir, en le regardant dormir, Nietzsche s'était dit qu'elle faisait fausse route. Avec lui, elle ne découvrirait rien, et surtout pas quelque chose qui donnerait un sens à sa vie. Dès le lendemain, avait-elle décidé, juste après une visite dans sa ville natale, elle mettrait un terme à cette absurde aventure et retournerait auprès de Jagang. Au milieu des ruines de l'armurerie, alors qu'elle pensait en finir avec lui, Nietzsche avait de nouveau vu briller l'étrange lueur dans les yeux gris de Richard. À l'évidence, elle ne s'était pas trompée. Le ballet mortel ne faisait que commencer. Devant l'entrée d'une maison du peuple, ainsi qu'on appelait les immeubles locatifs, Nietzsche fit signe à Richard de s'écarter et de la laisser parler. Ce soir, elle voulait dormir au sec et au chaud. La sœur de l'obscurité tapa à la porte, pas trop fort, de peur qu'elle se désintègre sous ses coups. En attendant qu'on lui ouvre, Nietzsche jeta un dernier coup d'œil à sa liste, puis la plia et la rangea dans son sac. Comme toutes celles qu'ils avaient visitées, cette maison du peuple devait avoir des chambres réservées aux nouveaux arrivants, car enfin, l'empereur avait besoin de travailleurs. Nietzsche avait décidé que sa quête d'un logement s'arrêterait là. Tous les matins, Richard franchirait cette porte pour aller travailler, s'éloignant de leur foyer à la façade délabrée et souillée de mystérieuses taches dont l'une évoquait irrésistiblement la croupe et la queue d'un cheval. Et chaque soir, il reviendrait chez lui, comme n'importe quel homme normal. Alors que Nietzsche frappait de nouveau à la porte, elle remarqua que Richard surveillait l'escalier extérieur, plongé dans les ombres. Pourquoi avait-il l'habitude de fixer tant de choses d'un air sombre? Bien sûr, elle ne pouvait nier qu'il avait un certain instinct. Mais qu'est-ce qui l'inquiétait précisément? Comme toutes les sœurs de l'obscurité, Nietzsche se fichait comme d'une guigne des choses qui effrayaient les gens ordinaires. Elle continua à frapper de plus en plus fort. Derrière le battant, une voix cria.
« Fichez le camp !»«
Il nous faut une chambre !» dit Nietzsche d'un ton déterminé. « Vous êtes sur la liste et nous avons besoin d'un logement. »«
C'est une erreur !»
répondit la voix.
« Il n'y a pas de chambre libre ici. »«
Écoutez, » fit Nietzsche de moins en moins commode, « ça commence à bien faire. Il est tard et... » Les trois jeunes garçons que la sœur de l'obscurité n'avait pas remarqués, contrairement à Richard, se levèrent et approchèrent. Torse nu malgré le froid, ils exhibaient leurs muscles, comme tous les petits coqs du monde aimaient à le faire. Bien entendu, tous brandissaient un couteau.
« Eh bien,
dit le plus grand avec un sourire obscène.
« Qu'avons-nous là? Deux petits rats qui ont peur de se noyer dehors ?»« J'aime bien la queue blonde de la femelle !»
lança un deuxième petit voyou. Richard prit Nietzsche par le bras, la fit descendre du porche et l'entraîna sous la pluie battante. Indigné, la sœur de l'obscurité tenta de freiner des talons. Le seigneur râle en personne, sourcier de vérité et messager de la mort, battait en retraite devant trois gamins miteux, c'était intolérable.
« Tu n'as plus de pouvoir !»
rappela Richard tandis qu'il s'éloignait. « Nous n'avons pas besoin de problèmes dans ce genre et je n'ai aucune envie de me faire poignarder pour une chambre. Savoir quand il est inutile de se battre est aussi important qu'avoir le courage de lutter quand ça s'impose. »
Bien qu'elle rêvât de dormir au sec, Nietzsche finit par reconnaître que Richard avait raison. Dans leur dos, les trois gamins riaient et traitaient le sourcier de lâche. Cela dit, ils ne prendraient pas la peine de s'aventurer sous la pluie. Comme tous les voyous de leur acabit, ils étaient arrogants, agressifs et probablement très dangereux. Au moins, ils feraient un jour de très bons soldats de l'ordre. Richard emprunta plusieurs ruelles latérales, se retournant souvent pour s'assurer qu'on ne les suivait pas. Alterang était un labyrinthe de rues et de venelles. Avec le ciel plombé et la pluie, on n'y voyait pas 10 pas devant soi, et se perdre se révélait très facile, surtout quand on n'était plus venu depuis des années, comme Nietzsche. Malgré tous les efforts de l'ordre, la ville s'était encore dégradée. Qu'en aurait-il été sans l'intervention salvatrice de l'empereur? Nietzsche préférait ne pas y penser. Revenu dans une avenue, Richard et sa compagne se réfugièrent sous un avant-toit en compagnie de plusieurs autres passants, surpris dehors par la pluie. Nietzsche tremblait de froid. Inquiet pour Callan, mais ne pouvant rien y faire, Richard regarda les rares chariots qui osaient braver les intempéries. Comment faisait cet homme pour ne pas souffrir du froid? Se demanda la sœur de l'obscurité. Pressée contre lui par les autres réfugiés, elle fut ravie de profiter un peu de sa chaleur. Richard ne parvint pas à se résigner à lui passer un bras autour des épaules pour la réchauffer. Trop fier, Nietzsche ne le lui demanda pas. De toute façon, le temps changerait bientôt, encore un ou deux jours et il ferait de nouveau doux et humide. Alors qu'elle allait sortir des ruines de l'armurerie d'Howard, le cœur délicieusement ravagé par des souvenirs déchirants, Nietzsche avait eu le sentiment que son prisonnier brûlait d'envie de la prendre dans ses bras pour la consoler. Il la haïssait et rêvait de lui échapper. Pourtant, il éprouvait de la compassion pour elle. Revenant au présent, la sœur de l'obscurité remarqua que Richard fixait de nouveau quelque chose. Cette fois, il s'agissait d'un chariot qui avançait en tanguant bizarrement. Une seconde plus tard, une roue se détacha de son moyeu. La charge était sans doute trop importante pour la résistance de l'essieu qui cassa net. Aspergé de boue quand l'arrière du véhicule s'écrasa sur le sol, les rares passants agonirent d'injures le cocher et l'homme assis à côté de lui. L'attelage s'arrêta abruptement, provoquant d'autres projections qui n'arrangèrent pas les choses. Le cocher et son compagnon sautèrent à terre. Tandis que le premier, foudrage, flanquait de grands coups de pied dans le flanc du chariot, le second, plus placide, inspectait les dégâts d'un regard blasé. Intrigué, Richard prit Nietzsche par le bras et l'entraîna vers le chariot renversé.
« Il va falloir le faire !»
dit le compagnon du cocher, un petit homme costaud.
« Ce n'est pas très loin !»«
Pas question, Ishak !»
répondit l'autre type, franchement du genre malingre.
« Ce n'est pas mon boulot et tu le sais très bien !»
Alors qu'Ishak haussait les épaules, résigné, le cocher approcha des chevaux et parvint à les convaincre d'avancer assez pour traîner le chariot sur le côté et dégager la voie. Quand ce fut fait, le type malingre entreprit de déharnacher l'attelage.
« J'ai besoin d'aide !»
cria Ishak à la cantonade.
« Pourquoi faire ?»
demanda un homme.
« Transporter mon chargement de barres de fer jusqu'à un entrepôt, celui-là à 3 maisons d'ici, le bâtiment avec une silhouette rouge peinte sur un côté. »
« Et tu paies combien, l'ami ?»
Ishak soupira de frustration.
« Je ne suis pas autorisé à payer quelqu'un. Pour ça, il me faudra une autorisation administrative. Mais si tu reviens me voir demain... »
Les passants éclatèrent de rire et se détournèrent. De la boue jusqu'aux chevilles, Ishak haussa les épaules, puis il entreprit de débâcher le chariot. Richard avançant toujours... Nietzsche tenta de le tirer par la manche, car elle voulait continuer à chercher une chambre et en trouver une avant la tombée de la nuit. Son prisonnier tourna la tête, la foudroya du regard et la força à le suivre.
« Vous vous nommez Ishak, c'est ça ? »
dit-il quand il fut arrivé au niveau de l'homme.
« Ouais, mon gars, mais comme tu vois, je suis plutôt occupé pour le moment. »«
Si je t'aide, » dit Richard, passant aussi au tutoiement,
« serais-je vraiment payé demain ? Ne me mens pas, s'il te plaît. »
Ishak secoua tristement sa tête couverte d'un étrange chapeau rouge au bord très étroit.
« C'est bien ce que je pensais. Prenons les choses autrement. Si je t'aide, nous laisseras-tu dormir dans l'entrepôt, ma femme et moi ?»«
J'ai pas le droit de faire ça. Et s'il arrivait quelque chose ? Si du matériel manque, on me licenciera avant que j'aie eu le temps de dire ouf. » »«
Une seule nuit. Je veux mettre ma femme à l'abri de la pluie pour qu'elle ne tombe pas malade. Que voudrais-tu que je fasse de barres de fer ? En plus, je ne suis pas un voleur. »
Ishak regarda le chargement, puis Nietzsche qui tremblait de plus en plus.
Une nuit dans l'entrepôt n'est pas un salaire équitable. Décharger tout ça prendra des heures.
Si tu es d'accord, et moi aussi, c'est un marché honnête, dit Richard. Je ne demande rien de plus et je suis prêt à trimer dur pour ce salaire.
Ishak regarda son interlocuteur, comme s'il avait des doutes sur sa santé mentale. Retirant son chapeau, il se lissa les cheveux puis remit le couvre-chef.
Vous devrez être parti demain à l'aube, quand j'arriverai avec un autre chariot. Sinon, je risque d'avoir des ennuis.
Je ne te mettrai pas dans l'embarras. Si nous nous faisons prendre, je dirai que nous sommes entrés par effraction.
Ishak réfléchit un long moment, l'air surpris par le dernier mot que venait d'employer Richard. Après un ultime regard sur le chargement, il fit signe qu'il était d'accord. Puis, il prit une barre de fer et la posa sur son épaule. Richard en souleva deux, les mit également en équilibre sur son épaule et fit signe à Nietzsche.
« Viens, » dit-il, « tu vas pouvoir te réchauffer et te sécher. »
La sœur de l'obscurité tenta de soulever une barre de fer, mais ça n'était pas dans ses possibilités. À certains moments, elle regrettait d'être privée de son pouvoir. Au moins, elle le sentait à travers le lien qui l'unissait à la mère inquisitrice. Au prix d'un gros effort, elle parvenait à maintenir le sortilège malgré la distance. Marchant près de Richard, elle se dirigea vers le refuge qu'il venait de leur trouver. Le lendemain matin, il ne pleuvait plus, mais de l'eau gouttait toujours du toit très sommairement étanche. La veille, pendant que Richard travaillait, Nietzsche avait utilisé la longueur de corde qu'il gardait toujours dans son paquetage pour étendre leurs vêtements de rechange, trempés à travers la toile de leur sac. Ils s'étaient étendus sur des palettes de bois, la seule option possible à part le sol en terre battue humide et glaciale. Pour se tenir, ils avaient dû se contenter de la lampe à huile que leur avait laissée Ishak. Au moins, Nietzsche avait pu passer les mains sur la flamme. Ils avaient dormi dans leurs habits mouillés. Eux aussi étaient à peu près secs au matin. Nietzsche n'avait pratiquement pas fermé l'œil, regardant Richard se reposer à la lueur de la lampe. Quel était donc le mystère de ses yeux gris? Revoir la lueur si spéciale, ce fameux jour, dans l'armurerie de son père, avait bouleversé la sœur de l'obscurité. Tant de souvenirs étaient remontés à la surface. Quand ils furent prêts à partir, Richard entrebâilla la porte, juste ce qu'il fallait pour qu'il puisse sortir, puis il chargea Nietzsche de veiller sur leurs affaires, retourna dans l'entrepôt, ferma de l'intérieur, grimpa jusqu'à une fenêtre et ressortit en sautant souplement à terre. Quand Ishak arriva avec son nouveau chariot, les deux jeunes gens l'attendaient assis sur un muret, pas très loin de la porte de l'entrepôt. Le véhicule s'immobilisa et le cocher, le type maigrichon de la veille, jeta un regard soupçonneux à Richard.
« Qu'est-ce que tu fiches là ? »
demanda-t-il.
« Désolé de vous déranger, mais je voulais vous parler à la première heure pour savoir s'il y a de l'embauche. »
Ishak regarda Nietzsche et constata qu'elle ne tremblait plus. Voyant que la porte était fermée, il comprit que Richard avait fait son possible pour qu'il n'ait pas d'ennui.
« Nous n'avons pas le droit d'engager des gars, »
dit le cocher.
« Va d'abord te faire inscrire sur une liste et on verra après. » « Je saisis. Eh bien, merci quand même. Je suivrai votre conseil. Une excellente journée à tous les deux. »
À la voix de Richard, Nietzsche savait désormais reconnaître qu'il mijotait quelque chose. Là, il tardait à partir pour donner à Ishak l'occasion de faire une bonne action. La veille, le sourcier avait porté sans se plaindre deux fois plus de barres de fer que son compagnon.
« Ne t'en va pas tout de suite, mon gars, »
dit Ishak. Il sauta à terre sans doute pour aller ouvrir la porte, mais s'arrêta d'abord devant Richard.
« Je suis le responsable de la manutention, et nous avons besoin d'un nouveau type, et t'es sacrément costaud. »
Du bout de sa botte, il dessina un plan dans la boue.
« Pour le boulot des homologations. Descends cette rue, prends la troisième à droite et continue tout droit jusqu'à la sixième à gauche. C'est juste là et on t'inscrira sur la liste. »
« J'y vais de ce pas, messire. »
Nietzsche était sûr que Richard se souvenait du nom de son nouvel ami, mais il jouait la comédie pour ne pas éveiller les soupçons du cocher. À l'évidence, il se méfiait de cet homme qui avait abandonné un collègue de travail dans l'embarras.
Décidément, il lui restait beaucoup de choses à apprendre. Le cocher avait agi comme il fallait, puisqu'il était interdit de voler le travail des autres. Décharger était la mission d'Ishak et de ses hommes, pas des cochers.
« Tu iras d'abord t'inscrire au syndicat des manutentionnaires, » dit Ishak, « et tu paieras ta cotisation. Le bureau est dans le même bâtiment que les services administratifs, où tu devras être enregistré. Je fais partie des travailleurs que le comité d'approbation consulte pour embaucher, et je me porterai garant pour toi. »«
Pourquoi ferais-tu ça, Ishak ?»
demanda le cocher.
« Tu ne connais même pas ce type. »«
Tu as vu sa taille et ses muscles ?» Pour remplacer le gars que j'ai perdu, il me faut pas un avorton. Tu m'imagines avec un vieillard rachitique comme toi?
Ce ne serait pas terrible.
Et regarde un peu sa femme. Cette petite a besoin de se remplumer. Ces deux-là m'ont l'air d'un gentil petit couple.
Si tu le dis,
marmonna le cocher.
Je compte sur toi, mon gars,
conclut Ishak.
Vous pouvez.
Le responsable de la manutention se dirigea vers la porte, mais il se retourna à mi-chemin.
« J'allais oublier. Comment t'appelles-tu »«
Richard Cypher. »«
Moi, c'est Ishak. Assois, Richard Cypher. Surtout, ne me déçois pas. Si je te surprends à paresser, je te jetterai dans le fleuve avec une barre de fer pliée autour du cou pour être sûr que tu coules à pic. »«
Je ne vous décevrai pas, Ishak. Je suis un bon nageur, mais pas avec ce genre de lest. »
Alors que Nietzsche et lui partaient en quête d'un peu de nourriture avant d'aller au bureau du comité d'approbation, Richard remarqua que sa compagne avait l'air maussade.
« Qu'est-ce qui te tracasse ?»« Les gens ordinaires n'ont pas ta chance, Richard. Pour obtenir un emploi, ils doivent se battre. »«
De la chance, dis-tu ? Si tu avais autant mal au dos que moi après la séance de cette nuit, tu verrais les choses autrement. »